jusqu'à 19h sur France Bleu, c'est 100% Foot Braise.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 100% Foot Braise, un 100% Foot Braise qui va évidemment longuement s'intéresser au derby fou du week-end entre le Stade Rennais et le Stade Brestois. Victoire 5-4 des Tizèf qui ont en plus, au passage, assuré leur première qualification en Coupe d'Europe. Match fou, match historique. On va y revenir avec notre journaliste Nicolas Blanza et Kevin Lelanne, supporter du SB 29 dans un instant. Match à rebondissement avec un scénario totalement dingue. Les Rennais qui ont mené 2-0 avant d'être renversés. Puis au bout du temps additionnel, Brest l'a emporté pour rester sur le podium. Et puis en deuxième partie d'émission, on s'intéressera là à une note un peu moins glorieuse pour les Bretons, puisque Lorient a été une nouvelle fois battu par Toulouse dans cette 31e journée de Ligue 1. Les Lorientais restent relégables, défaite 2-1 avec un scénario défavorable au cours de la rencontre. Lorient a peut-être maintenant un pied en Ligue 2. On s'y intéressera avec Quentin Burban, journaliste à Ouest France.
Jusqu'à 19h sur France Bleu, c'est 100% Foot Braise avec Gaëtan Pinel.
Le Stade Brestois, ça y est qualifié en Coupe d'Europe. Reste à savoir laquelle. Ce sera au minimum la Ligue Europa, peut-être même la Ligue des Champions après le derby fou, spectaculaire, historique, remporté à Rennes hier, 5-4. Un match commenté par Nicolas Blanza qu'on va retrouver dans un instant. On va commencer d'ailleurs par tout simplement écouter le but de la victoire, la liesse au Roizen Park sur le 5e but hier.
Oh, le 5e but. Oui, oui, oui. Lilian Brassier, 5-4. C'est une folie, c'est une folie. On vous l'a dit, le parquage brestois qui exulte, qui explose. 5-4. Pour le Stade Brestois, Lilian Brassier, deuxième poteau de la tête, comme tout à l'heure, sur l'égalisation du 4 partout des Rennais. Il y a un ballon puissant de Mathias Pereira-Lage qui traverse toute la surface de réparation.
Dingo cette fin de match, Nicolas, c'est comme bonsoir ça qu'on peut la, tout simplement la distinguer, bonsoir.
Oui, bah c'est complètement fou parce que c'est la dernière action du match finalement, c'est la dernière occasion, il n'y a plus rien, le temps additionnel est mangé, il est poncé, enfin, si Rennes ne fait pas faute à ce moment-là, le match est fini. Et puis c'est vrai que c'est totalement fou parce que Rennes égalise un peu sur une action, c'est vrai, un peu similaire. Il y a un coup franc puissant de Bourigeaud qui est coupé par Terrier, touché du bout du pied pour égaliser à 4 partout. Et là, c'est pareil, c'est un coup franc qui est bien frappé, brossé, pied droit au milieu d'une forêt de joueurs. Et là, c'est hallucinant parce que j'ai regardé 10 fois depuis ce matin. Le ballon traverse la forêt, rebondit, il passe rien au milieu des défenseurs. Ah ouais. Et il y a Brassier qui surgit au deuxième poteau. Et ce qui est vraiment aussi ce qui renforce ce sentiment de folie. Ce qui est étourdissant, c'est les dessous de ce but en fait, parce qu'il nous le raconte hier, Lilian Brassier, c'est il dit oui, il y a le coup franc, je dis au gars bon, on joue le nul, et il y a Kenny là qui dit non, vas-y, quoi, on joue le nul, non, monte, va devant, et Lilian Brassier qui dit mais t'es sûr, va devant. Et je pense qu'il y avait un peu de confiance chez Kenny là, parce qu'il avait de façon assez spectaculaire annihilé une action rennaise peu de temps avant sur un contre où il y avait un 2-2. Il avait été assez impressionnant dans la façon de contrôler cette action. Et là, les Brestois ont dit bon bah, on fait un peu tapis quoi sur cette action. Tous les grands montent et puis voilà, il y a ce dénouement dingue.
Et c'est rentré pour le 5e but, victoire 5-4 du Stade Brestois qui n'avait plus gagné depuis 37 ans à Rennes en plus. Hein.
Mai 87, voilà.
J'étais 37 ans en fait.
Ça va faire 37 ans. Mais oui, ça faisait 14 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues, sans victoire. Une éternité donc au Roizen Park. Et voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et à redire de cette rencontre. Mais c'est vrai que ça avait du sens ce que disait Hugo Magnetti. Le lieu, les circonstances, la façon dont cette victoire s'est construite, il y avait un peu tout du stade brestois sur cette rencontre.
Effectivement, on accueille aussi pour revenir sur cette rencontre un supporter du SB 29, c'est Kevin Lelanne. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Gaëtan.
Salut Kevin.
Alors évidemment plein d'émotions j'imagine, vous devez être encore être sur votre petit nuage là, non?
Je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. c'est un moment rare. Suspendu, c'est incroyable.
Ouais, incroyable.
Pour tout supporter du Stade Brestois, ce qui s'est passé hier soir restera dans la légende du club, parce que c'est tout un ensemble. C'est un derby incroyable, 9 buts. c'est un scénario improbable. Tu perds 2-0 au bout de 10 minutes, tu reviens à 2-2, tu gagnes 4-2, etc. Et tu gagnes 5-4 à la fin. C'est digne des plus grands matchs de Ligue 1, peut-être de ces 20 dernières années.
Ouais.
Et c'est digne, c'est le plus grand match de l'histoire du club parce que ça qualifie le club pour la première fois en Coupe d'Europe. Et c'est absolument, c'est légendaire. C'est franchement, même dans nos plus beaux rêves, on n'y croirait pas, mais ouais. C'est absolument incroyable.
Parce que Kevin, nous, ce qu'on entend beaucoup au niveau des supporters, c'est que beaucoup d'entre vous, d'entre eux, ont connu la disparition du Brest-Armorique quand le club a fondu les plombs, qu'il est reparti des plus bas niveaux, qu'il y a eu tous ces matchs de championnat amateur, et que finalement, c'était il y a longtemps, mais il n'y a pas si longtemps, pour voilà, des gens qui ont aujourd'hui 40-50 ans, qui ont connu la galère du stade, et de le voir en Europe aujourd'hui, c'est probablement très fort.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi, parce que en fait, là, je pense à... Moi, j'ai que 32 ans. Donc c'est vrai que je suis né au moment de la liquidation du BASC, du Brest-Armorique. Et c'est vrai que j'ai commencé à aller au stade au niveau des années nationales. CFA national, c'est compliqué. On était 900 000 à peine. Mais je pense à ceux qui ont démarré les matchs contre Fécamp, il y avait 500 personnes à Leblay. Et après, Brest est monté au fur et à mesure. Il y a eu national, CFA national, Ligue 2, une période de 3 ans en Ligue 1 avec Michel Guillot et Alex Dupont. Voilà, après, les Lecins ont repris le club en 2016-2017. Et depuis, ça monte crescendo. Et là, on arrive à un aboutissement de projet Lecin, on va dire. C'est absolument incroyable. Et franchement, ce club est méritant. Et franchement, respect à tout le staff, tous les joueurs, Greg Lorenzi, les salariés, enfin bon, pour tout le travail qui paye aujourd'hui.
Ouais, en plus, ce qui ressort depuis le début de la saison, c'est que cette équipe, elle incarne aussi l'identité brestoise, la combativité, la solidarité, l'engagement. Alors c'est sans doute loin, même d'ailleurs, ils le disent, hein, d'être les meilleurs joueurs de foot de Ligue 1 techniquement. Mais c'est vrai que en termes de valeurs dégagées, de solidarité, de cohésion, enfin, cette équipe, Kevin, véritablement incarne l'identité brestoise.
Tout à fait, je suis d'accord parce que c'est la devise ne jamais rien lâcher. Et ne jamais rien lâcher, le Brestois, il ne lâche jamais rien en fait. Il ne lâche jamais rien, il est têtu. Et c'est vrai que les gens s'y retrouvent beaucoup à travers cette équipe. Parce qu'en fait, en plus de mêler le beau jeu, il lâche rien. Et ça s'est encore vu hier soir en fait. Et depuis le début de saison, c'est comme ça. Et ça a démarré dès la première journée contre le RC Lens. Tu perds 2-0, tu reviens 2-1, tu gagnes 3-2 en deuxième période, quoi.
C'est vrai que c'était annonciateur, finalement, tout ça.
Oui, rétrospectivement, c'est vrai que l'analogie est belle, ouais.
C'est ça, et donc, voilà, le stade Brestois, les Brestois, ils adorent ça. Dans un chaudron comme le blé, stade sans bling-bling, des joueurs pas bling-bling du tout. Voilà, c'est des joueurs, des très bons joueurs, techniquement, mentalement, voilà, l'un pour l'autre.
Avec
voilà,
des qualités humaines aussi, c'est ce qui dégage. Ouais. Enfin, pour en avoir discuté un peu, et comme le dit l'expression parfois un peu triale, mais il y a pas de planche pourrie dans ce vestiaire. C'est souvent ce qui est ressorti parce que il y en a qui ont quand même beaucoup rangé leur froid, eu peu de temps de jeu. Il y a souvent un 11 qui s'est dégagé titulaire, et il y en a qui étaient un peu cantonnés au banc à rentrer en jeu, et personne n'a retourné le vestiaire.
Non, c'est vrai, tout est resté en ordre dans cette équipe du Stade Brestois. On continue d'en parler dans un instant. On va notamment revenir aussi sur le scénario de ce match fou.
Gaëtan Pinel, 100% Foot Braise.
On file en 1982 avec Téléphone et cet incontournable titre composé par Louis Bertignac, Cendrillon.
Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle parle. Jolie petite histoire. Elle parle. Cendrillon, et la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheval blanc loin d'elle.
Cendrillon sur France Bleu, Bray Zizel, c'était Téléphone.
France Bleu, radio officielle du sport en Bretagne.
Le Stade Brestois, vainqueur du derby fou hier, officiellement qualifié, maintenant en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. On va aussi prendre le temps de revenir sur le scénario de ce match, parce que il y a tout un contexte évidemment qui accompagne la victoire 5-4 des Brestois hier à Rennes. Brest déjà a raté son entame de match finalement, Nicolas, parce qu'on retient évidemment la victoire, mais il y a l'entame qui est manquée avec deux buts concédés en 10 minutes. C'est quoi, c'est une équipe trop tendre peut-être au départ?
En fait, moi je trouve ça très paradoxal, parce que ouais, on dit l'entame est ratée, mais moi je suis plutôt convaincu des 2-3 premières minutes, parce que Brest a le ballon, il y a l'engagement, il y a un premier corner qui est obtenu, Del Castillo qui le tire, Mounier qui va bouger Mandanda, mais c'est vrai que derrière il y a ce premier but sur cette première action rennaise, et qui est quand même, faut le dire, elle est splendide, parce que il y a un renversement, ça vient côté gauche, le ballon circule avec Santa Maria au milieu du terrain, il y a une passe verticale pour aller de Matuziwa pour aller chercher Kalimundo, vraiment il y a une belle action collective, et derrière il y a le deuxième but, et là c'est inhabituel, c'est Bizot qui fait une faute de main, il a tellement sauvé d'occasions de but toute la saison, il s'est même montré très solide comme l'un des meilleurs gardiens de la Ligue 1, et là c'est inhabituel, et c'est vrai que tu dis bon, 11 minutes 2-0. L'après-midi va être longue, quoi.
C'est ça.
Et au final, et c'est ce qui a été appréciable côté brestois, c'est qu'ils sont pas laissés compter. Ils ont passé beaucoup de temps à discuter, à contester, à se laisser un peu déborder par leurs émotions sur le dernier match, avec l'arbitrage, notamment à Lyon, un peu de frustration face à Monaco, etc., etc. On a vu dans les attitudes que c'est pas grave, on y retourne, on va au mastic, quoi. Ouais. Et on a vu le Stade brestois qui est capable de renverser des montagnes comme à Lyon, mener 4 buts d'un coup quand même.
Ouais, c'est ça.
Au final, tu concèdes un 2-0 et après t'en mets 4 dans la foulée, quoi. Alors, un en première période, puis 3 en début de seconde, mais ça dénote et ça illustre ces valeurs fortes de combativité et d'état d'esprit du côté des Brestois. D'ailleurs, je reviens de remettre à jour ma feuille de statistiques maison que je tiens à jour tout au long de la saison. C'est la 14e fois depuis le début de la saison que le Stade Brestois a concédé l'ouverture du score.
Ouais.
Sur ces 14 fois, Brest a pris des points sur la moitié des rencontres. Sur 7 matchs, Brest a fait soit match nul, soit les a retournés pour l'emporter. Et là, c'était la 4e fois de la saison où Brest a gagné un match après avoir été mené 1-0, a fortiori 2-0 hein, même, et la 2e fois à l'extérieur. Donc c'est vrai que ces valeurs-là de combativité, d'état d'esprit, de rien lâcher... Ça s'illustre notamment par ça, par sa faculté à rebondir après avoir concédé l'ouverture du score notamment.
Et puis les Brestois qui ont su marquer peut-être à des moments cruciaux parce que c'est une minute après le 2-0 ouais. qu'ils reviennent à 2-1
ouais.
et en tout début de deuxième mi-temps aussi.
C'est vrai que les réductions du score de Mounier tout de suite après le deuxième but, c'est important. Et comme plus tard dans le match, quand Rennes revient à 3-4 après avoir été mené 4-2, la frappe de Théâtre ouais. qui est magnifique, et là c'est juste après le quatrième but brestois. Et c'est vrai que bah, dans les deux cas, on se dit « Ah, il se peut se passer quelque chose ». Brest n'est plus mené que 2-1, revient juste dans la foulée du 2-0. Il peut se passer quelque chose.
Ouais, ouais, ouais.
Et après, c'est vrai que l'égalisation au retour des vestiaires, là, c'est les compteurs sont remis à zéro, quoi. Non, le scénario est complètement fou. Enfin, ouais, ça remonte à quelques années, Gaëtan, ta bonne mémoire, mais il y avait eu un Marseille-Lyon. C'était
ouais.
un Lyon-Marseille, Marseille
ouais.
5-4 aussi.
5-5.
5 partout.
5
partout, exact.
2008-2009 ou 2009-2010.
Je me suis dit, mais j'ai revu ce match, quoi, où ouais, ça allait ouais. dans les deux sens, et là, et les Brestois ont tiré les marrons du feu, quoi.
Ah, c'était absolument fou aussi. Et donc là, cette victoire brestoise. Kevin, vous étiez où pendant le match? Vous étiez au stade? Vous l'avez vu à la télé? Comment vous avez vécu ça?
J'étais chez un collègue et je vous avoue que les murs ont tremblé parce que c'est absolument incroyable. Parce que voilà, avec le stress, déjà le stress d'un derby tout court, mais voilà, il y a de l'enjeu. Ce Rennes joue aussi une place en Europe quand même, hein, faut pas l'oublier.
Ouais, ouais, ouais.
Et voilà, et c'est vrai que quand tu vois le scénario du match, 2-0, tu démarres mal, tu dis bon, comment ça va se passer ici? Voilà, tu reviens à 2-1, 2-2, et après, et puis les buts sont incroyables, ils sont magnifiques.
Ouais.
Voilà,
la tête de Satriano après, notamment. Wow.
Mais surtout là, tout est exceptionnel sur cette action. Il y a le renversement. Brendan Chardonnay, il est médiane côté droit. Il fait un renversement côté gauche, 50 mètres plus loin dans la diagonale. Bradley Loco élimine sur le contrôle Guéladoué.
Ouais, facilement. Hein.
Et il fait mine de, il se pousse le ballon, il fait mine de centrer. Il continue un petit peu sa course. Il le sent, et Satriano. Et là, ce qui est beau, c'est que Mounier monopolise deux défenseurs. Il y a de la présence autour de lui. Il met un coup de boule monstrueux, Satriano, pour envoyer le ballon au fond. C'est vrai que cette action-là est splendide.
Ouais. Absolument, absolument splendide. Il y a eu d'autres buts, de la volée de Camara aussi,
ouais,
évidemment, qui en est à 6 buts cette saison.
Avec la technique de la longue touche des Brestois. Hein.
Ouais.
Kenilala, il a refait passer cette technique-là. On le voit régulièrement amener du danger. Il y a Mounier dans la surface. Là, c'est Tête qui le prend, mais la volée est très belle. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Il y a des déviations qui peuvent amener forcément du danger. On a vu évidemment beaucoup de scènes de liesse aussi à Francis Leblay au retour joueurs hier soir à Brest après ce derby. Kevin, c'est le moment le plus fort de l'histoire du club, plus peut-être aussi que le retour du SB29 dans le monde pro en 2004, par exemple?
Alors là, oui, si on compare les montées à travers, par exemple, en 2010, la remontée en D1 avec Alex Dupont, ou celle de 2019, sous l'ère Jean-Marc Furlan, c'est le plus beau moment de l'histoire du Stade Brestois. Certes, des montées, mais une qualification en Coupe d'Europe pour la première fois, c'est vraiment dingo. Franchement, on voit ça dans les jeux vidéo.
Ça faisait 20 ans que c'était pas arrivé qu'un nouveau club français joue en Coupe d'Europe. La dernière fois, c'était Châteauroux en 2004-2005, et Brest sera le 36e club français à jouer une Coupe d'Europe.
C'est complètement dingo à l'ère d'aujourd'hui, du football business. Voilà, Brest qui est le 15-16e budget Ligue 1 avec 48 millions. Et là, franchement, c'est une sensation incroyable. Franchement, mille respects, et il faut se dire que le championnat n'est pas fini maintenant.
Oui, ouais, c'est ça.
Et Brest peut aller chercher l'impensable.
Et bien sûr, ouais, parce que il y a la qualification.
La place en Ligue des Champions. Ouais.
Bien sûr, il y a la qualification en Europe qui est assurée, mais maintenant, il faut aller chercher la Ligue des Champions.
Ouais.
On ne s'en cache plus.
Oui, voilà. Moi, c'est le sentiment, enfin, ce qui a un peu transpiré hier soir. Enfin, moi, j'ai même si les joueurs l'ont verbalisé un peu différemment, et Eric Roy aussi, en disant après tout, il ne restait qu'un point, il ne manquait qu'un point pour être qualifié en Europe. Mais c'est vrai. Mais moi, j'ai quand même senti une forme de voilà, la case est cochée, c'est fait. Brest a tourné un peu autour du pot. Il y a eu la défaite à Monaco, on l'a dit. Lyon, la fébrilité face à Metz, de conclure, d'aller obtenir sur le terrain cette fois cette qualification, c'est fait. Maintenant, Brest est troisième, à 3 matchs devant lui. Quoi qu'il arrive, au pire tu joues la Ligue Europa, au pire t'es cinquième. La saison elle est réussie, quoi qu'il arrive.
Ouais.
Voilà, elle sera historique. Il y aura le meilleur classement de l'histoire du club, un record de victoire, il y aura tout. Voilà, maintenant il faut finir le boulot, et je pense que l'état d'esprit sera, ça sera celui-là. Et maintenant, il n'y a plus que l'énorme surprise à créer.
Clairement.
Et la troisième place, voire la deuxième, Monaco n'est pas si loin, même si le calendrier de Monaco est plutôt, semble-t-il, facile pour eux. Mais voilà, il faut finir sur le podium.
On va d'ailleurs rappeler un petit peu le calendrier des trois équipes là, actuelles, surtout celles qui se battent pour la Ligue des Champions, Monaco, Brest et Lille. Les trois vont affronter Nantes, déjà, ça c'est le point commun. Brest affrontera aussi Reims et Toulouse lors de la dernière journée. Il y a deux matchs à domicile pour les Tisefs.
Et deux équipes qui, Reims-Toulouse, a priori,
qui n'ont plus rien à jouer.
Non, Reims, paraît, même s'ils sont à 6 points de la 6e place, ça paraît loin, parce qu'il y a trois équipes encore devant. Donc,
ils ne sont pas très bien. Et puis donc, les Monégasques et les Lillois, en plus de jouer Nantes. Monaco, il y aura la réception de Clermont et un déplacement à Montpellier. Et puis pour Lille, il y aura la réception de Nice et réception de Lyon.
Ouais.
Aussi, Lille-Lyon, d'ailleurs, le week-end prochain.
Ouais.
Ça s'annonce.
La fin de la semaine, c'est un gros. Lyon peut encore accrocher l'Europe par le championnat. Hein. Lille n'a pas un calendrier si facile que ça.
Non, c'est ça. Et au classement actuellement, les Brestois ont un point d'avance sur Lille. Donc bon, ça va vraiment batailler jusqu'au bout. Le petit pronostic, c'est quoi, messieurs là? C'est troisième place, quatrième, deuxième, ou vous voyez les
troisième.
Brestois?
Moi, je pense qu'ils vont venir troisième.
Troisième également.
Je pense qu'ils vont le faire, parce que peut-être que Lille va peut-être traîner un peu en route.
Bon, et ben on va surveiller ça avec grande attention. On va souhaiter évidemment la Ligue des Champions au Tisef. Merci beaucoup, Kevin. Belle semaine, elle sera forcément belle, là, j'imagine. Et puis à très vite.
À très vite, bonne soirée.
Merci Nicolas, à bientôt aussi.
Stade Brestois, Coupe d'Europe. Stade Brestois, Coupe d'Europe. Allez, bonne
ça
soirée.
Ça change ici dans les studios. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Le Stade Brestois s'impose. 5 buts à 4 ici au Roazhon Park.
Match en direct.
Hallucinant. Ils sont en train de sauter dans tous les sens, de communier, de partager avec leurs supporters, les Brestois.
Les grands moments du foot breton sont ici, sur France Bleu Brésil.
C'est une folie, c'est une dinguerie. Les Brestois sont renversants, ils sont ébouriffants.
Sur France Bleu Brésil.
T'as droit et toi, Coupe d'Europe. T'as droit et toi, Coupe d'Europe. T'as droit et toi, Coupe d'Europe.
France Bleu, radio officielle du sport en Bretagne.
Quand la musique est bonne.
Toute la musique que vous aimez est maintenant disponible partout et tout le temps sur la nouvelle radio musicale en ligne de France Bleu, 100% chansons françaises. 100% chansons françaises. De Cabrel à Angèle, de Goldman à Woolsey, de Juliette Armanet à Johnny Hallyday. Découvrez 100% chansons françaises à tout moment sur francebleu.fr, sur l'application ICI, ICI et sur l'application Radio France.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu en Bretagne, ici, on parle d'ici.
Demain matin, de la pluie sur le Finistère qui peu à peu se déploiera sur les Côtes d'Armor et le Morbihan à partir de la fin de matinée et même au cours de l'après-midi. En début de soirée, les nuages prendront le relais. Même chose d'ouest en est. Les températures iront de 10 à 15 degrés. Il fera par exemple 11 degrés à Landivisiau et 12 à Concarneau dans le Finistère. Chez les Morbihanais, comptez 14 à Hennebon et 11 à Gourin dans l'arrière-pays. Et puis dans les Côtes d'Armor, 14 degrés du côté de Guingamp et même chose du côté de Lannion, un peu plus près de la côte. Sur la route actuellement, rien de particulier en termes de bouchons, mais un obstacle. Ceci dit, sur la Nationale 12, à hauteur de Grasse, dans le sens Paris-Brest.
L'infotrafic 100% local avec Inforoute 29, service vous alertant des travaux, déviations, accidents sur les routes départementales finistériennes. Toutes les infos sur finistère.fr, rubrique Inforoute 29.
Jusqu'à 19h sur France Bleu, c'est 100% Footbraise.
Dans un instant, la deuxième partie du 100% Footbraise. On a longuement parlé évidemment du derby fou entre Rennes et Brest. On va maintenant s'intéresser à la défaite des Merlus, les Merlus avant-derniers de Ligue 1 qui ont été battus hier face à Toulouse. On y reviendra dans un petit instant avec Quentin Burban, journaliste à Ouest France.
Jusqu'à 19h sur France Bleu, c'est 100% Footbraise.
Mais d'abord, on écoute Alain Chamfort qui signe son retour avec un 16e album dans lequel figure cette chanson « La Grâce » sur France Bleu, Bray Zizel.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas. Ne serait-ce qu'un instant fugace. Les mains sales, les ongles pleins de crasse. aurais-je su toucher la grâce, ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse. Comme on pousse une vieille carcasse, aurais-je su toucher la grâce, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, aurais-je sans l'avoir cherché, parler devant parlant de moi, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment, ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses, tabassé par la vie qui tabasse, aurais-je su fondre la glace, trouver une voie dans les congères, jusqu'au cœur de mes congénères, avant que je tombe en disgrâce, aurais-je effleuré cette grâce, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, aurais-je sans l'avoir cherché, parler devant parlant de moi, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment.
Alain Chamfort sur France Bleu, Bray Zizel avec son nouveau titre La Grâce.
Parlons bien, parlons sport, 100% foot Braise.
Direction Lorient où une nouvelle défaite est venue agrémenter la saison des Merlus. Défaite cruelle hier face à Toulouse, 2-1, match sur lequel on revient avec Quentin Burban, journaliste à Ouest France, qui était au match hier au Moustoir. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Gaëtan, bonsoir à tous.
Alors opération chaotique pour les Merlus, défaite 2-1 et surtout un scénario difficile à digérer hier face à Toulouse.
Oui, oui, Gaëtan, tout à fait. Les Merlus ont fait une bonne première période, ils ouvrent le score assez fort logiquement et derrière ils poussent pour mettre ce deuxième but. Il y a la barre transversale de Badreddine Bouelani, mais il y a aussi de multiples occasions. Et puis voilà, ils sont rentrés au vestiaire et avec le collègue de la Dépêche du midi qui suit Toulouse, il nous a prévenu que Toulouse jouait souvent une mi-temps sur deux. Et ça s'est avéré puisque Toulouse s'est réveillé en deuxième période et Lorient a craqué sur un coup de pied arrêté et puis sur une erreur individuelle de Laurent Berger. C'est extrêmement cruel, mais bon, c'est la dure loi du football et notamment de la Ligue 1 et du haut niveau.
Effectivement, cette défaite de 2-1 à l'arrivée, la faiblesse de Lorient finalement sur ce match, c'est de ne pas avoir réussi à breaker Toulouse, on a l'impression, sur la première période.
Bon, en tout cas, Gaëtan, tu étais présent aussi au stade et c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. On dit mais Lorient doit rentrer au vestiaire avec 2-3-0 et On avait vu Paris qui était venu mercredi, et Paris, bon, c'est Paris, hein, mais ça roule au compresseur. Quand ils mettent un but, et ben, ils veulent chercher à en mettre un deuxième tout de suite. C'est ce qui s'est passé contre Lorient. Et Lorient a essayé, mais ils n'y est pas allé. Ils avaient peur de se découvrir. On sent qu'ils étaient vachement hésitants. Et puis, des petites erreurs individuelles en défense en début de match. Je pense à celle de Touré en 1 contre 1 défensif. Et derrière, il était un peu hésitant lui aussi sur toutes ses passes. Et du coup, il y avait beaucoup de monde qui était hésitant et ils n'osaient pas trop y aller. Et résultat, ben, ils n'ont pas réussi à mettre ce deuxième but et ils se sont fait punir immédiatement derrière.
Ouais, c'est ça. Et pourtant, ça a aussi poussé lorsque Toulouse a égalisé. Il y a eu 2-3 grosses occasions avec Abergel, avec Ponceau notamment, de marquer ce deuxième but. Là encore, c'est pas passé. C'est vraiment le signe aussi d'une saison qui ne tourne pas, hein, globalement.
Ouais, tout à fait, Gaëtan. En face, il y a un super gardien, hein. Guillaume Rest, c'est l'avenir du foot français. Hein. Ouais. Clairement, les parades qui sortent, la frappe de Laurent Abergel, elle part en lucarne, mais elle part vraiment bien en lucarne. Hein. Il se détend super bien. Et puis, la tentative de Ponceau, elle a l'image de la saison de Ponceau. Il est instinctif, il frappe, on s'y attend un peu pas, et bam, il frappe et reste et vigilant sur sa ligne. Donc voilà, quand ça veut pas, mais quand ça veut pas, faut surtout insister, et ça finira par marquer. Malheureusement, ça réussit pas au Merlu.
Non, effectivement, cette défaite à la fin, dans les 10 dernières minutes, avec le but de Sissoko, Lorient qui n'a engrangé qu'un seul point sur les 21 derniers possibles, un point et 6 défaites, donc, sur les 7 dernières rencontres. La différence, là, avec les autres concurrents, Metz, Le Havre, notamment, c'est qu'eux relèvent la tête dans le sprint final lorsque Lorient replonge.
Exactement, Gaëtan, et Lorient a dû respirer quand Gonçalo Ramos, l'attaquant du PSG, a égalisé dans les dernières minutes face au Havre. Le Havre qui allait battre le PSG au Parc des Princes quand même. Je me souviens qu'il y a 15 jours, Metz a battu Lens aussi. Donc voilà, Lorient a un gros calendrier qui lui attend avec deux déplacements à Lens et Marseille. Il va falloir imiter ces deux équipes en faisant un gros coup. Alors beaucoup sont sceptiques évidemment, et à juste titre, mais s'ils veulent se maintenir, le salut passera par là.
Ouais, ça passera par là.
Sur une grosse équipe.
Évidemment, pour les Merlus, on a senti hier la grande déception aussi des supporters. Alors non seulement déjà le moustoir s'est un peu éteint au moment du deuxième but toulousain, hein, ce qui est logique, et puis derrière, lorsque Laurent Abergel a voulu aussi aller discuter avec les supporters, on a senti la colère, hein, un petit peu monter du côté des Merlus Ultras suite au résultat.
Ouais, elle fait mal cette image parce que Laurent Abergel, c'est un capitaine exemplaire, il s'arrache sur le terrain, il revenait de blessure et il a quand même fini le match, il était vide et voilà, il voulait discuter, il voulait s'excuser parce que c'est lui qui fait cette erreur individuelle sur le but qu'amène Toulouse. Il a été exemplaire toute la saison et le COP n'a peut-être pas voulu qu'il s'exprime, mais ça peut s'entendre aussi parce que les supporters lorientais sont là depuis le début de la saison, ils donnent de la voix le moustoir. Ils résonnent grâce à eux et ils s'arrachent dans les tribunes et j'aimerais que sur le terrain ils s'arrachent aussi un peu plus et que ça se confirme par les résultats. Mais oui, elle a fait très très mal cette image et voir Laurent Bergel en pleurs et même un peu abattu en zone mixte, ça fait bizarre. Ouais.
Mais effectivement, à 3 matchs maintenant de la fin de la saison. On se retrouve dans un instant, Quentin, et on continue de revenir sur ce match, mais surtout de se pencher sur la suite de cette saison lorientaise.
Sur les France Bleues de Bretagne. Gaëtan Pinel, 100% Foot Braise.
Un petit tour aux États-Unis avec le groupe Chic. On écoute Le Fric.
Big fun to be hacked by everyone. It's up to you.
Le fric, c'est chic sur France Bleu, Braise Izel.
Jusqu'à 19h sur France Bleu, c'est 100% Foot Braise avec Gaëtan Pinel.
On retourne donc du côté de Lorient avec Quentin Burban. Vous étiez hier, hein, Quentin, au match au Moustoir face à Toulouse. Bon, avec 3 points de retard maintenant sur le barragiste et sur le premier non relégable aussi. Une différence de but défavorable. Lorient est condamné à prendre quoi ? Au moins 4 points pour quitter sa place de relégable ?
Bah, Gaëtan, j'ai même envie de dire 6.
Ouais.
Malheureusement, parce que il y a cette fâcheuse différence de but. Mais imaginons un scénario où Lorient revient à la hauteur de Metz, on va dire, à la différence de but, qui soit par exemple tous les deux à moins 20, et bah c'est la différence de but particulière qui est prise en considération. Et à ce petit jeu-là, les Lorientais se sont bien ratés parce que ils ont perdu contre Metz 3-2 à domicile. Mmh. Ils sont allés gagner 2-1 là-bas. Mais si c'est contre Le Havre, et bah Le Havre a gagné 3-0 chez eux contre Lorient. Et au retour, souvenez-vous, ce match fou, 3 partout.
Ouais.
Donc Lorient va se faire avoir si ça joue à la différence de but, s'ils sont à égalité aussi. Donc il faut un point de plus. Et là aujourd'hui ils ont 3 points de retard, mais en fait en réalité ils en ont 4, quoi.
Avec ouais, c'est
cette
ça.
Fâcheuse différence de but.
Ouais, effectivement, pour les Lorientais qui se déplaceront le week-end prochain à Marseille avant d'aller à Lens, puis de recevoir Clermont, la Lanterne Rouge, qui s'est imposée hier 4-1 face au Stade de Reims et est revenu un petit point désormais des Merlus. Est-ce que Lorient a maintenant un pied en Ligue 2 selon vous, Quentin ?
Alors c'est l'inverse, Gaëtan, c'est Lens puis Marseille.
Lens puis Marseille, pardon, oui, en effet, Lens puis Marseille.
Il se déplace à Lens vendredi là. J'ai oublié ta question, Gaëtan.
Je disais, ouais, est-ce que les Merlus ont un pied en Ligue 2 là après cette série de résultats et ces points là qui les séparent maintenant de leurs concurrents?
Beaucoup d'observateurs, dont moi, pensons que le match contre Toulouse était crucial devant leur public face à une équipe qui n'avait presque plus rien à jouer et qui était à leur portée. Et ça s'est vu sur ce match. Lorient a dominé Toulouse une bonne partie de la rencontre. Et le perdre, ça fait très mal. Il y a des signaux qui sont vraiment pas bons pour cette équipe, ouais, avec ses erreurs individuelles qui se répètent et qui se répètent. On veut pas jouer les vilains petits canards, on veut pas que le club le redescende, mais bon, oui, je pense que Lorient a un pied en Ligue 2 au vu de leur calendrier, même si évidemment leur concurrent a aussi un calendrier difficile. On aimerait juste qu'il y ait, comme le club, qu'il y ait une finale au Moustoir face à Clermont, mais d'ici là, il va falloir gagner des points contre Lens ou Marseille qui cherche une place européenne, donc c'est extrêmement compliqué.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que le match face à Clermont était un peu la date fixée, hein, par les Merlus pour le rendez-vous en vue d'aller chercher soit le maintien, soit la place de barragiste au pire des cas. C'est un peu ce qu'a dit entre les lignes aussi Loïc Ferry hier lorsqu'il s'est arrêté en zone mixte, où lui il parlait de quart de finale, demi-finale, puis finale finalement sur les 3 matchs qui restent, comme un parcours de coupe où faut rester en vie à chaque fois, quoi.
Ah bah de toute façon, il y a plus de questions à se poser, même c'est ce que Laurent Berger a dit, faut qu'ils se vident sur le terrain, faut qu'ils donnent tout. Ouais. S'ils ont l'amour du maillot, s'ils respectent le FC Lorient, il faut qu'ils finissent liquider tous ces matchs-là, qu'ils s'arrachent, qu'ils aillent marquer les buts, qu'ils fassent des tacles ravageurs de tous les instants, qu'il y ait de l'agnac, qu'il y ait un caractère de folie qu'on n'a pas forcément vu depuis le début de saison. Faut qu'ils s'arrachent. C'est ce que Laurent Berger n'a cessé de rabâcher par le passé. Il y a certains joueurs dans cet effectif qui ont déjà connu des luttes pour le maintien compliquées. Laurent Berger était là avec Julien Laporte sous les ordres de Christophe Pelissier quand ils avaient fait une première partie,
oui,
donc catastrophique, et s'en était sorti. Et ben aujourd'hui, ces mecs-là doivent prendre les commandes et doivent demander aux autres joueurs de s'arracher pour battre Lens et Marseille. Lorient, c'est un poil à gratter de cette Ligue 1. Ils sont capables de battre les grosses équipes, et même quand ils sont pas en forme comme actuellement.
Effectivement, c'est vrai qu'on le disait, le côté caractère, ouais, qui manque un peu. On n'a pas vu un mauvais match de Lorient hier, par exemple, mais on n'a peut-être pas vu, c'est vrai, suffisamment de caractère, suffisamment d'une équipe qui se batte comme une équipe qui joue le maintien, en fait, pour aller chercher la victoire jusqu'au bout.
Bah exactement, Gaëtan. En fait, quand ils prennent l'égalisation, ils se liquéfient complètement. Alors après, il y a l'occasion quand même de Laurent Bergel et Ponceau pour nuancer, mais ils se liquéfient. En fait, ils ont peur sur chaque occasion défensive. Et sur le but que concède Lorient, le deuxième, en fait, le système de jeu en 3-4-3 fait que Yongwa qui est rentré en...
Ouais.
Yongwa était à droite à ce moment-là. Et ce qui fait que derrière, l'attaquant toulousain, il est libre de tout marquage puisqu'il n'y a plus personne pour venir en soutien. Et voilà, des situations comme ça, ça se répète semaine après semaine pour le FC Lorient. Et ça leur coûte énormément de points, quoi.
Effectivement, ça en coûte beaucoup trop et peut-être le maintien aussi hein, à l'arrivée. On perd pas totalement espoir, il y a encore la possibilité de se sauver, mais c'est vrai que maintenant c'est quand même bien mal embarqué suite à cette défaite face à Toulouse. Merci beaucoup Quentin Burban, vous souhaite une belle fin de saison, on espère qu'elle sera heureuse et à bientôt.
Merci, oui, on l'espère aussi. Merci Gaëtan.
Merci, au revoir.
Gaëtan Pinel, 100% Footbraise.
Ah, programmateur chez France Bleu la nuit. Very good trip.
When I wake up in the morning, love.
France Bleu Collector.
And the sunlight hurts my eyes.
On a tous un copain mélomane qui se prend pour un jukebox.
Don't you know this time you blow my mind. Every kind of people. To make the world go round.
France Bleu Collector, chaque soir de la semaine, dès 23h.
Le franco-canadien Loshia Schneider débarque dans le 100% Footbraise. Voici Ensemble.
La mémoire est courte, l'été est cruel. Les filles sont belles et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble. Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement.
Alyosha Schneider, c'était Ensemble sur France Bleu Breizh-Izel.
France Bleu, radio officielle du sport en Bretagne.
Et un petit point sur les résultats aussi de National 2, parce que la course au maintien se poursuit en cette fin de saison. Évidemment, la 24e journée s'est jouée ce week-end hein, et le Stade Briochin qui s'est imposé 3-0 à Granville avec des buts de Jeannot, d'Angois et de Béguin. Un score qui était acquis déjà à la mi-temps, un score de 3-0. Et puis surtout, eh bien, il y a deux résultats qui laissent de l'espoir au club breton. La réserve du FC Lorient qui est allé chercher le point du nul à Châteaubriant grâce à deux buts de Pembele Boula. Deux buts en seconde période. Lorient est revenu deux fois au score. Alors, les Lorientais sont toujours relégables, oui, mais toujours dans la course au maintien à deux points du premier non relégable. Et de son côté, eh bien, la Dinan a continué sa belle série. Troisième victoire consécutive pour les Dinanais. On avait reçu il y a quelques jours Sofiane Valla, tout comme Stéphane Lamand, aussi l'entraîneur et le buteur de Dinan Léon. Eh bien, Dinan s'est imposé 2-0 contre Saint-Malo ce week-end grâce à deux buts d'Anthony Vermet. Dinan Léon est plus que jamais engagé dans la course au maintien. Sixième maintenant avec 34 points. C'est 6 points d'avance sur Saint-Malo. Il manque, allez, un petit point, et encore que ça pourrait même suffire avec ces 34 unités pour les Dinanais dans cette course au maintien. Dans le même groupe, match nul pour les Guingampais, eux qui sont d'ores et déjà relégués. Match nul face à Vire sur le score de 2 buts partout. Et puis, qui dit National 2 dit forcément s'intéresser aussi au National 3, où les résultats ont été favorables à Locminé. Locminé qui a battu Vitré. C'était le choc du week-end dans le haut de tableau. Le premier face au deuxième. Locminé l'a emporté 1-0 grâce à un but de Fodiba Danso. Conséquence de tout cela, Locminé est en tête avec 3 points d'avance sur la TRN. Et seules ces deux équipes désormais peuvent encore croire à la montée en National 2. Vitré désormais hors de course suite à ce revers pendant que la TRN, grâce à sa victoire 6-2 face au Potret Dispunt d'Ergué Gabéric, est revenu dans la course très clairement à la montée en National 2. Justement, demain, on s'intéressera à cette montée en National 2. On accueillera la Saint-Colomban Locminé. L'objectif maintenant, évidemment, de la montée, on ne peut plus se cacher derrière tout cela. Il reste 2 matchs seulement à disputer. Et l'équipe de Locminé est favori pour aller chercher cette accession. On s'intéressera aussi à la Ligue 2 parce que ça a joué ce week-end. Alors pour les Guingampais, pas spécialement d'enjeu, on le sait maintenant depuis une petite semaine, c'est plus compliqué pour en avant et les Guingampais risquent de terminer dans le haut du ventre mou de Ligue 2. Ils sont allés s'imposer 2-1 à Pau, mais on s'intéressera surtout à l'US Concarneau qui a maintenant un pied en National. Les Concarnois battus par Rodez 2-1 au stade Francis Leblay samedi soir ont désormais 6 longueurs de retard sur le premier non relégable. Les chances de se sauver s'amenuisent pour les Thoniers de Stéphane Le Mignon. On s'y intéressera à tout cela demain. En attendant, on termine évidemment ce 100% Footbraise avec un Brestois. Bah ouais, forcément, stade Brestois, Coupe d'Europe. Alors on accueille Miossec qui chante La Grande Marée sur France Bleu Braise Isel.